L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
L'histoire de la forêt du plateau de Mille Vaches, en présentant, alors de cette histoire forestière, plutôt assez récente, on va le voir, et à travers différents portraits de femmes et d'hommes qui ont travaillé sur la forêt depuis plus d'une centaine d'années.
Super, on vous écoute.
Adieu forestao, comme on dit en occitan. Bonjour à les forestiers et nouveaux forestiers. Donc après les considérations techniques des rôles de la forêt et des moyens techniques pour les faire appliquer sur le terrain à travers des documents de gestion durable, on en avait parlé la semaine dernière ensemble, je vous propose aujourd'hui de faire un petit pas de côté et de nous retourner, de projeter notre regard en arrière sur le chemin vers le passé, car comme j'aime souvent le dire aux apprentis forestiers, il est important de savoir d'où on vient pour mieux comprendre où il faut aller. Ainsi, l'onde du bois résonne une quatrième fois sur les ondes de Radio Vassivière pour vous raconter cette fois-ci une histoire en deux parties. Celle de la forêt du plateau de Mille Vaches, héritée des choix de nos ancêtres, habitants, paysans et forestiers, et à qui nous devons aujourd'hui la précieuse ressource forestière que nous côtoyons quotidiennement. Je vous propose, dans cette première partie de l'histoire de la forêt du plateau de Mille Vaches, la présentation des origines de la reforestation d'un vaste massif forestier sur la montagne Limousine, et cela donc dans la première partie de 1900 à 1945. Alors fixons d'abord le point de départ de la frise chronologique pour établir la progression de la forêt que nous fréquentons aujourd'hui. Il est plus facile de juger la progression dès lors que des empreintes sont suivables, ici sous la forme des premiers témoignages écrits au début du XXe siècle et facilement consultables, provenant des premiers forestiers professionnels dont les missions étaient de permettre à la forêt de revenir sur le devant de la scène. Dans cette chronique, je développerai cette frise jusqu'à 1945, fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui marque un grand changement dans les rapports de l'homme au vivant. Au XIXe siècle, le plateau est peuplé de landes où les biens communaux dominent dans une société locale vivant de ses activités agricoles. La fin du XIXe siècle est sujette à de nombreux changements. La transformation du marché du travail et l'exode rural frappent durablement le plateau. Les activités saisonnières comme le limousinage, de nombreux habitants du Limousin employés comme maçons dans les villes, entraînent des changements durables. Les communaux sont divisés et les prés et les pâtures deviennent dominants. Marius Vazeille, forestier passionné et érudit, nous explique dans son ouvrage de recherche « Mise en valeur du plateau de Mille Vaches » de 1931 que, à une époque relativement peu éloignée, la forêt couvrait sans doute d'importants cantons, forêts de bouleaux, de hêtres et même de chênes, avec des aulnes, des frênes, quelques ormes, et que les vestiges de ces forêts existent encore ça et là. Dans les tourbières, on trouve de nombreuses racines, des branches et même des troncs de bouleaux et de chênes. Dans toutes les communes, des parcelles de landes sont connues sous des dénominations qui rappellent les bois, les arbres, comme les baissades, la baisse, les jarriges, les chassots, le boiselier, les bolons, Bellechassagne, les bardèches, bourroux, Beaudevisy, Lignaret, etc. Fin de citation de Marius Vazeille. Avant 1914, le paysan, souvent aussi inconscient que ses ascendants, fauchait parfois ses cépés en même temps que la bruyère pour chauffer le four et les bêtes à laine parcourent ces surfaces aussi librement qu'elles le font dans les landes voisines. De ces grands massifs forestiers d'autrefois, forêts de l'époque gauloise, du Moyen-Âge et même des premiers siècles de l'époque moderne, il ne reste plus qu'une vaste lande, résultat d'un essartage, d'un usage intensif pour se chauffer et du surpâturage des brebis du plateau. Un autre forestier, Émile Cardot, inspecteur des eaux et forêts, chargé d'étudier la faisabilité de réinstaller de vastes massifs forestiers sur le plateau de Mille Vaches, décrit lors du premier congrès de l'arbre et de l'eau le 21 juin 1907, je cite, « Le plateau du Mille Vaches en grande partie déboisé. Si l'on excepte quelques rares massifs d'une certaine importance tels que les forêts de Châteauvert, Mirambel, Bellechassagne, La Feuillade, Châteauneuf, et ça et là quelques bocqueteaux très disséminés, la surface mamelonnée du plateau n'est que lande de bruyère. C'est une immense steppe, sans ombrage, est presque sans culture et sans habitants. Rien n'égale l'impression de tristesse et de mélancolie que l'on éprouve en suivant les routes qui traversent le plateau et pendant des heures entières ne rencontrant ni un arbre, ni une maison, n'entendant pas le chant d'un oiseau. Il faut parcourir de très longues distances, 10-15 kilomètres, avant de rencontrer un village. Et alors, avec leurs haies d'arbres qui bordent les chemins, ces petits terroirs agricoles vous donnent l'impression des oasis, de ces petits paradis terrestres qui, de loin en loin, jalonnent les routes des grands déserts. Fin de citation d'Émile Cardot. Alors, Marius et Vazeil et Émile Cardot décrivent bien à travers ces deux récits l'état du plateau de Midvache du début du XXe siècle, et on pourrait se poser alors la question sur les objectifs de reboisé, dont les présentations d'Émile Cardot et de Marius Vazeil proviennent et offrent des pistes de développement pour impulser la première grande vague de boisement. La Société des industriels du Limousin et la Société savante Gay-Lussac, menée par son secrétaire général de l'époque, Paul Garrigou-Lagrange, organise en 1910 à Limoges le premier congrès de l'arbre et de l'eau. Le châtaignier y occupe une place de choix. Le professeur Mangin parle aux congressistes du châtaignier et sa crise. Lavial propose un essai de classification du genre Castanea sativa. 14 ans plus tard, en 1924, le ministre de l'Agriculture, Henri Cueil, corrézien, préside à Brive le congrès national de la châtaigne. Les organisateurs sont l'Office agricole de la Corrèze et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest qui s'intéressait alors aux châtaignes et aux pommes, qu'elles transportaient d'ailleurs. À cause des maladies, chancre, encre et du vieillissement des souches de taillis, l'intérêt d'essayer de nouvelles essences forestières sur les stations élevées de 500 à 980 mètres d'altitude, acides, sablo-limoneuses et superficielles à profonde, des sommets au fond de vallon, les forestiers dépêchent sur place des techniciens forestiers devant mener des essais d'installation de peuplement forestier adapté et convaincre les habitants du territoire à reforester. En 1908, Émile Cardot parlait déjà des efforts réalisés de 1862 à 1876 par M. Bourotte, sous-inspecteur des forêts, pour faire pousser des grands arbres, notamment des pins sylvestres et pins lariciaux à Saint-Fiel, du côté de Guéret, à Sardan, vers Bourganeuf, à Aubusson, par la famille Toumieux et Cancalon à Royères. Et en 1931, Marius Vazeil, avant de présenter ses propres essais, évoque des échecs trop fréquents, mais aussi des essais heureux par la famille Coutisson-Dumas de Gensioux, Rousseau et Arfeuillère à Tarnac et à Perlevade, Coudert à Saint-Pardoux-le-Vieux, Grandchamp à Saint-Hilaire et à Pérols. Dans son ouvrage Mise en valeur du plateau de Midvache, Marius Vazeil présente un plan général de culture qui constate l'absence de main-d'œuvre, l'allocation en nature par la dotation en plan aux paysans, lutté à l'Assemblée nationale, et la nécessité de reboiser 90 000 hectares multipliés par une valeur forestière de 250 francs par hectare au lieu de 20 francs par hectare en élevage ovin. Les essences étudiées sont nombreuses. Des essences feuillues, comme le chêne, les érables, les châtaigniers, les ormes, les frênes, les peupliers, les robiniers, les tilleuls, catalpas, féviers d'Amérique même. Et résineuses, comme les pins, épicéas, sapins, mélèzes, douglas, tsuga, tuya, cèdres. Il y parle de la culture en présentant ses premiers résultats obtenus à Barsange au Puy-Chabrol, mais également présente un gros travail sur l'amélioration des pâturages par les choix et techniques de culture des herbes à pâture en concordance avec l'invention de son grand précepte, le prébois. Tous les paysans rencontrés par Marius Vazeil, qui se déplaçaient à bicyclette à l'époque sur le plateau de Midvache, hein, ces paysans rencontrés, des forestiers en devenir, ont arrêté leurs yeux, page 145 de son guide de 1931, sur les trois essences à croissance rapide et présentant une bonne rusticité en terrain profond, ou assez profond, à savoir donc le Douglas vert, le mélèze du Japon et l'épicéa tsitka. Ainsi, le départ de la ruée forestière a été lancé dès 1931, avec la création sur le plateau de Midvache de nombreuses entreprises forestières, comme Fessaguet, Plantation à Pérols, Passelergue et Trivio à Barsange, et puis des pépinières, celles de Vazeil à Croisia, Mémac, et les pépinières scolaires impulsées par Émile Cardot à Mémac et à Bugeat. La Première Guerre mondiale aura aussi forgé le visage de la forêt du plateau, par les centaines de millions de coups de pioche et de plans mis en terre par les prisonniers allemands, ainsi que la dette de guerre allemande payée en grande partie sous la forme de graines de pin, bien souvent de mauvaise provenance. Enfin, après la guerre de 1939-1945, l'État veut reconstruire et mettre en valeur son patrimoine forestier jusqu'à ériger le reboisement au rang de devoir national. Pour aller au bout de ses ambitions, il crée le Fonds forestier national, alimenté par des taxes, sur les produits forestiers qui sont ensuite redistribués par le Trésor public sous forme de subventions, de prêts, de bons subventions permettant d'acheter des plants en pépinière. Cela facilite encore plus la dotation aux plants et accélère la reforestation sur la montagne Limousine. Vous l'avez compris, ces forêts, surtout résineuses, que nous traversons tous les jours, sont le résultat, 123 ans plus tard, de réflexions de quelques personnes passionnées par l'arbre, la forêt, et souhaitant rapprocher l'homme et l'arbre dans une relation symbiotique. En effet, au-delà du fait que Marius Azay était député communiste, il considérait l'apparition des arbres comme un cadeau pour l'homme, et Émile Cardot, forestier sensible, s'indignait déjà en 1900 de la destruction par coupe rase sur pente. Nous aurons l'occasion, d'ailleurs, de reparler d'eux en les rencontrant dans des chroniques futures. La prochaine Onde du Bois vous présentera la deuxième partie de l'histoire de la forêt du plateau de Mille Vaches, en parlant des premiers effets de ce grand verdissement de 1945 à nos jours, de l'évolution des pensées sur la forêt, et aussi de la croissance des surfaces boisées parallèlement à celle des arbres, et des moyens de transformation que l'amélioration des technologies a occasionnés. Je vous dis à très bientôt, chers amis des bois, et en attendant d'emprunter de nouveau les ondes sonores avec vous, je vous souhaite une belle journée, en compagnie toujours de près ou de loin des arbres, et en souhaitant également que la forêt reste une forêt.